12h30, 13h, chaque jour sur RKS, c'est l'invité du jour.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur RKS 97FM dans votre émission L'invité du jour qui chaque jour reçoit des Grenoblois, Grenobloises de l'agglomération largement pour parler de sujets qui nous concernent tous. Et aujourd'hui nous allons parler logiciel libre, système d'exploitation libre, cette manière différente d'envisager le numérique porté par Stéphane Bonhomme notamment à travers Démotique, un atelier boutique situé à Grenoble. Afin d'en parler, j'invite donc Stéphane Bonhomme dans ce studio et on va converser sur ce rôle qu'ont aujourd'hui les grands de ce monde, les GAFAM comme on les appelle, ces grands hiboux qui payent pas d'impôts ou très peu, pas assez en tout cas pour bon nombre de nos concitoyens, mais qui s'immiscent, on pourrait dire, dans nos vies quotidiennes à travers les smartphones, les tablettes et puis tous les engins connectés qui nous entourent. Stéphane Bonhomme, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc participant à cette grande aventure de Démotique, depuis 3 ans à son atelier boutique en centre-ville de la ville de Grenoble. Pour être très simple et rentrer tout de suite en conversation, Démotique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous y développez? Et dans quel esprit, tout simplement?
Alors, Démotique, c'est une association loi 1901 qui existe déjà depuis 5 ans maintenant, qui est située, donc, comme vous l'avez dit, à Grenoble, grand rue, centre-ville, depuis 3 ans. Donc, en fait, on est une association qui met en relation des producteurs et des usagers de l'outil numérique au sens général. On a une boutique à Grand Rue donc, qui nous permet d'accueillir le grand public pour à la fois sensibiliser et accompagner dans l'utilisation de logiciels libres. Et puis, on a également des activités de développement informatique un peu plus professionnel à destination de PME, d'associations et d'autres sociétés ou organismes publics.
Très bien. Alors aujourd'hui, quand on parle justement des GAFAM, donc de Google, enfin tout ce qu'on connaît, Facebook, etc., quels sont les risques en fait? Qu'est-ce que ces grands mastodontes mondiales opèrent sur nos vies quotidiennes en fait? Quel est le constat que vous faites aujourd'hui?
Ouais. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que le numérique est devenu un objet incontournable de notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des démarches administratives, réserver un billet de train, prendre le bus sans avoir recours à des services numériques. Ces services qui sont très utiles et qui, dans notre vie quotidienne, nous facilitent les choses, ont aussi un travers qui est la captation de données personnelles qui sont faites à travers ces applications et qui sont exploitées par ces grandes sociétés pour nous vendre de la pub, principalement, aujourd'hui.
D'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que à chaque fois qu'on navigue sur notre ordinateur, PC ou Mac, qu'on se connecte avec une tablette, avec les différents objets connectés et nos téléphones portables, on est soumis finalement à une sorte de criblage, de ciblage, et qu'en retour, finalement, ces algorithmes récoltent ces données, les analysent, et après transforment celles-ci en pub, et aussi en les échangeant contre monnaie sonnante et trébuchante, c'est ça?
Voilà, il y a toute une économie qui se bâtit sur cette captation de données et cet échange de données entre gros acteurs. Aujourd'hui, des sociétés comme Google et Facebook, leur principal revenu, c'est la publicité. Google est la plus grosse agence de pub mondiale. Donc ces données sont captées et aujourd'hui servent à des fins publicitaires. Mais finalement, il y a une appropriation un peu exclusive de ces données par ces grosses sociétés qui peut présenter un danger à terme aussi sur les libertés quotidiennes de tous les citoyens.
C'est-à-dire que finalement, c'est le choix individuel qui est remis en question, la liberté individuelle de chaque citoyen, puisque quand on va, par exemple, tout bêtement, on va sur un moteur, une plateforme musicale, on cherche des titres de musique, et dans la foulée, on s'aperçoit effectivement qu'on nous propose une playlist de titres qui sont dans la même mouvance, on pourrait dire, que ce qu'on a écouté précédemment. C'est-à-dire qu'on est capté, et qu'alors la suggestion est un peu forcée, c'est ça?
Voilà, alors ça paraît comme un confort pour bien des gens, hein. C'est quand même pratique quand on a simplement écouté 2-3 titres, d'avoir toute une playlist pour la soirée, c'est pr- C'est également pratique quand on va réserver un billet de train d'avoir des suggestions pour des hôtels, des voitures, des choses comme ça. Mais il faut savoir que toutes ces données sont enregistrées, les gens sont profilés. Aujourd'hui, on va nous suggérer des choses. Peut-être demain, on ne sait pas quelles vont être l'exploitation de ces données par ces sociétés et éventuellement les gouvernements avec lesquels elles passent des accords aussi.
Alors, quelle est la solution justement que vous proposez, vous ? C'est justement déjà d'informer, je suppose, le citoyen sur ces travers, tout simplement, sur ce que cela suppose que de naviguer avec ces navigateurs que l'on connaît tous. C'est déjà le premier niveau, c'est ça, c'est l'information du grand public sur la réalité de ce que font ces opérateurs mondiaux.
Voilà, donc à travers la boutique, nous on a un contact avec le grand public, il y en a quand même beaucoup de gens qui passent au quotidien, qui s'interrogent. Depuis les dernières réglementations européennes qui sont arrivées l'année dernière, qu'on appelle le RGPD, donc qui impose à ces acteurs d'informer les utilisateurs sur leurs droits et leurs devoirs, mais qui est quand même perçu principalement comme une source d'ennui ou une difficulté à utiliser une application par la plupart des gens, mais ça quand même eu le mérite de sensibiliser les gens, enfin une part du public, à l'utilisation des données qu'ils fournissent. Alors effectivement, des données, on en fournit quand on navigue sur Internet avec un navigateur, un ordinateur. Le plus pernicieux, c'est peut-être quand on se promène avec un téléphone portable qui est équipé d'un GPS. Position, si vous ne prenez pas garde, toute votre position, tous vos parcours en ville, par exemple, peuvent être tracés par ces grosses sociétés et on peut savoir quel commerce vous avez fréquenté, combien de temps vous y êtes resté, si vous avez acheté quelque chose ou pas, selon le moyen de paiement peut-être. Aujourd'hui, il y a des moyens de paiement par téléphone, donc on sait ce que vous avez acheté, combien vous avez payé, combien vous avez dépensé. Donc ça peut être très très précis.
Donc en fait, il y a une question de liberté fondamentale aussi, le droit à l'anonymat par exemple, voilà. Le droit à la discrétion tout simplement, c'est aussi ça qui est remis en question. Et puis alors par extension, on pourrait dire que si ces outils-là tombaient dans des mains malveillantes, on peut penser à un Hitler 2.0, là il y a un gros souci qui pourrait se poser. Est-ce que, alors, en poussant un petit peu la réflexion sur un stade ultime comme ça, de démocratie véritable et de liberté fondamentale aussi, là on arrive justement à la limite de l'exercice, c'est-à-dire que comment se protéger, comment se prémunir, comment garder sa citoyenneté, son libre arbitre, et puis la capacité de faire les choses sans que cela se sache, tout simplement, si on n'a pas envie que ça se sache.
Oui, mais tout à fait. Donc une des solutions, c'est forcément d'oublier son téléphone à la maison, peut-être. Donc forcément, on renonce à un certain nombre de facilités qu'on a dans la vie quotidienne aujourd'hui, d'être tout le temps joignable, de pouvoir rejoindre ses amis facilement, etc. Mais moi, je fais assez couramment l'exercice d'oublier mon téléphone chez moi. Je me sens pas si différent que ça. Bon, il y a des répondeurs. Hein, si on veut m'appeler, on m'appelle un peu plus tard. Bon. Après, se prémunir au niveau aussi des applications qu'on utilise, il y a des alternatives, donc à travers les logiciels libres, à pas mal d'applications qui sont aujourd'hui proposées par toutes ces sociétés.
Alors, il y a des applications aussi que l'on utilise assez quotidiennement, qui sont aussi issues de cette philosophie du logiciel libre et qui qu'on utilise. On peut penser à VLC, n'est-ce pas ? Et oui, quels sont les logiciels, par exemple, dont on ne sait pas qui sont libres, qui sont constitués par des communautés ? Parce qu'en fait, le principe d'un logiciel libre, c'est qu'effectivement, le logiciel est créé et puis chacun de la communauté qui l'utilise peut l'améliorer, peut le diffuser librement, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'argent qui circule, c'est un échange, on pourrait dire, de pensée, de concept.
Voilà, le logiciel libre, c'est une nouvelle façon de voir l'économie du numérique qui est basée plus sur un échange de savoir, sur un échange de compétences, qui est quand même une économie donc, basée sur du service plus que sur des produits. Donc le logiciel libre propose quatre libertés fondamentales. Qui sont d'utiliser un logiciel, de pouvoir diffuser un logiciel. Donc ça, c'est les libertés qui sont les plus faciles à exercer pour le grand public, mais aussi de pouvoir étudier le code source d'un logiciel pour des gens qui sont plus avertis, et éventuellement de le modifier, de le redistribuer. Donc ce qui permet de bâtir de façon communautaire des logiciels qui évoluent, qui se développent en fonction des besoins du public et des usagers.
Alors, justement, aujourd'hui, on s'aperçoit malgré tout que l'extrême majorité, on pourrait dire, des systèmes d'exploitation et des logiciels viennent des GAFAM, tout simplement. Alors, quels sont les freins, finalement? Parce qu'on le sait maintenant, le grand public sait qu'effectivement, les grandes sociétés internationales captent les données, les traitent avec des algorithmes, et pour après les revendre, en tout cas, cibler les individus ou les groupes pour vendre des produits, quels qu'ils soient, manufacturés ou de services, ou que sais-je. Qu'est-ce qui freine, justement, le grand public à ne pas adopter justement ces alternatives aux grandes mastodontes internationales?
Le principal frein, c'est la facilité d'utilisation. Vous achetez un ordinateur, il vient avec un système d'exploitation, donc Windows ou Apple macOS, installé. Donc vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton, il démarre, il est fonctionnel, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Si vous voulez utiliser un logiciel libre, il faut aller télécharger le logiciel sur Internet, le mettre sur une clé USB, redémarrer votre ordinateur en mode d'installation, on ne sait pas trop, faire des partitions, enfin des choses un peu compliquées. Ça, c'est des choses qui sont un gros frein à l'utilisation de systèmes d'exploitation libre aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on propose, c'est justement de faire un peu ce lien entre cette partie très technique et le grand public en prenant en charge justement cette part d'installation, en proposant donc l'installation d'un système d'exploitation libre, d'un système d'exploitation libre sur un ordinateur. Et en accompagnant aussi les utilisateurs à la prise en main dans les premiers pas de l'utilisation de ce système, savoir où trouver ses logiciels, comment se connecter à Internet, comment connecter une imprimante, etc.
Oui, donc en fait, c'est de l'éducation au numérique, d'une manière générale, de la formation et de l'installation pure et dure. Donc là, vous mettez la main à la pâte. Comment ça se passe? Il faut être adhérent de votre structure? Il y a un coût qui... parce que évidemment, il faut bien vivre aussi. Il faut une économie derrière tout ça, même si les logiciels sont libres. Comment vous faites justement pour proposer ces services et réussir à développer votre activité?
Voilà, alors on a tout un panel de services hein, qui sont effectivement payants, hein, des prix qui sont relativement raisonnables. Donc on peut en prendre en charge un ordinateur, simplement installer un système libre avec toute une panoplie de logiciels qui permettent de fonctionner directement.
Par exemple, des noms, tout simplement.
LibreOffice, Firefox, Thunderbird, donc VLC, qui permettent tout de suite d'être productif, d'aller sur Internet, de pouvoir faire du mail, de pouvoir...
naviguer par exemple sur le web,
voilà, ou faire de la bureautique, du tableur, des traitements de texte, des lettres, etc. Donc nous, on prend en charge un ordinateur et puis on le rend fonctionnel, libéré à l'utilisateur.
Très bien. Et donc, on sait bien qu'en France, il y a aussi cette fracture numérique dont on parle. C'est qu'évidemment, on n'est pas tous égaux face à l'informatique, et loin de là. Les utilisations qui sont faites peuvent être absolument différentes d'un individu à l'autre, selon ses besoins, sa classe d'âge, sous tous les paramètres qui constituent notre société. Et donc, vous adaptez véritablement les services que vous proposez à la demande particulière de l'individu ou de la structure. Parce qu'effectivement, vous travaillez aussi avec des SCOP, des PME ou des collectivités locales.
Oui, et aussi des pépinières d'associations, particulièrement à Grenoble, Cap-Berriat, à MNVI, on travaille avec eux et on les accompagne aussi, alors pas forcément sur le logiciel libre, mais on les accompagne dans leur utilisation du numérique.
Très bien.
En ce qui concerne le grand public et l'aspect formation, c'est vrai qu'on est particulièrement sensible à cet aspect fracture numérique, même si j'aime pas trop le terme de fracture numérique. On est particulièrement sensible à cet aspect et on développe une activité de formation pour permettre justement aux personnes qui n'ont pas accès à ces outils de pouvoir s'y approprier ou qui ont des difficultés d'accès à ces outils de s'y approprier. Donc à travers de la formation et des ateliers qu'on est en train de mettre en place, ça c'est la grande nouveauté de la rentrée, en collaboration avec la CAF, avec d'autres partenaires sociaux, et puis aussi en vendant du matériel reconditionné. Donc là, on rejoint aussi une dimension écologique de l'association qui est de prôner le zéro déchet, de ne pas surenchérir sur le dernier matériel et le matériel, le dernier high-tech possible. Donc on vend des ordinateurs reconditionnés, qui sont des ordinateurs professionnels, Ce qui permet de réduire l'empreinte écologique aussi de l'activité numérique.
Oui, contre cette fameuse obsolescence programmée que les fabricants, notamment d'ordinateurs, mais pas que, ont mise en place pour qu'effectivement l'économie tourne. Mais à quel prix ? C'est bien ça la question. Ou le prix sociétal, le prix environnemental, et puis le prix aussi des libertés publiques, parce qu'effectivement, dès qu'on est un peu cerné, dès qu'on fait une démarche sur un ordinateur, se pose la question du libre choix, du libre consentement, et puis effectivement de ces questions-là. Je vous propose, Stéphane Bonhomme et chers auditeurs, de faire une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour parler logiciels libres, systèmes d'exploitation, formation et puis de réfléchir ensemble sur ces questions. A tout de suite sur RKS 97 FM.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Vous êtes sur RKS 97 FM dans votre émission L'Invité du Jour. On vient d'écouter Bob Dylan, évidemment, avec Blowing the Wind. Et nous sommes en compagnie de Stéphane Bonhomme, de l'atelier boutique et association Démotique, qui œuvre à l'année auprès de tous les publics, individuels ou collectifs, pour les systèmes d'exploitation libre et de logiciels libres. Question très prégnante dans la société française, et pas seulement dans les sociétés occidentales largement, puisque les GAFAM obtiennent aujourd'hui un monopole tout à fait hégémonique sur le monde informatique et tous les objets connectés qui nous entourent. Les enjeux, on disait, étaient notamment démocratiques, effectivement, de libertés individuelles, et aussi un rapport au monde, effectivement, puisque derrière ces logiciels non libres, il y a des brevets, il faut les acheter, les mises à jour sont payantes, et du coup, on peut tout de suite, si on n'a pas les moyens d'accompagner financièrement ces mises à jour, ces renouvellements, alors des objets en eux-mêmes, puisque l'évolution, tous les 6 mois, on a un nouvel ordinateur ultra performant ou une tablette ou un smartphone hyper connecté. Donc du coup, il y a aussi un rapport entre le Nord et le Sud, je dirais, entre les pays occidentaux, presque dire accidentés, occidentaux développés, et puis le reste du monde qui aussi peine à pouvoir s'équiper. On peut penser aux pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, de l'Asie en partie. Il y a quand même bon nombre de pays dans le monde qui n'ont pas les capacités financières tout simplement pour s'équiper. C'est une question aussi qui vous préoccupe, je dirais, cet accès égalitaire, on pourrait dire, à ces outils qui sont aussi un vecteur de développement tout simplement, puisque aujourd'hui l'informatique, de manière très générale, les techniques de communication font partie du monde, même au fin fond de l'Afrique, les gens ont un portable, évidemment. Hein. C'est des questions qui vous concernent, je dirais, tout simplement, une vision un peu globale de ces échanges mondiaux, de cette guerre économique qui nous agite aussi, et dont les répercussions nous touchent, nous, en tant qu'individus, qu'on soit au nord ou au sud.
Oui, effectivement, c'est un sujet qui nous concerne beaucoup, surtout qu'on accueille aussi, chez nous, en France et en Europe, un certain nombre de réfugiés qui viennent de ces pays-là et qui sont aussi équipés de téléphones, enfin, de smartphones principalement. Donc on essaie aussi de les aider en collaborant avec des associations d'accueil de réfugiés, soit en les accueillant et en leur donnant des moyens d'accéder au numérique dans la boutique directement, en leur proposant des ordinateurs conditionnés moins chers, plutôt que ces ordinateurs partent à la poubelle et se retrouvent au final dans leur pays, dans des caisses ciel ouvert, où ils sont brûlés sans être recyclés.
Nous, avec tous les composants chimiques qui polluent gravement les sols.
Oui. Donc nous, on préfère travailler avec des partenaires en reconditionnement et proposer ces ordinateurs à prix modique à des populations socialement défavorisées chez nous, ou des étudiants, ou des gens qui n'ont pas les moyens de renouveler effectivement tous les 6 mois leur matériel pour avoir la dernière nouveauté bling bling.
Oui, c'est ça qui vient de sortir de la marque X ou Y, donc on ne citera pas le nom. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, vous qui êtes au cœur de ces questionnements et de trouver aussi des solutions, parce que se questionner c'est intéressant, mais essayer de trouver des solutions c'est intéressant aussi. Est-ce que vous sentez par exemple que les pouvoirs publics ont pris conscience de cela? Parce qu'il y a quand même des aberrations. On sait bien, par exemple, que le ministère des Armées s'est équipé avec des logiciels Microsoft, alors qu'on sait très bien qu'à l'intérieur sont cachés des mouchards qui permettent de capter aussi des données. Mais alors là, on parle de défense nationale, de souveraineté nationale également. Il y a une contradiction peut-être entre cette envie de taxer les GAFAM, de réguler un petit peu le marché de la communication numérique très largement, mais en même temps, en installant des logiciels d'exploitation états-uniens dans le système de défense français et européen largement.
Oui, effectivement, et c'est à notre sens un gros problème. Un dirigeant de notre pays, il y a une cinquantaine d'années, général de Gaulle, se retournerait dans sa tombe s'il apprenait qu'on utilisait des logiciels américains partout dans le système, au ministère de la Défense en France. Donc c'est un problème. Il y a eu des initiatives, par exemple la gendarmerie utilise des logiciels libres quand même, assez largement. Il y a aussi pas mal d'initiatives locales de la part de collectivités locales pour promouvoir et utiliser des logiciels libres. On est particulièrement bien passé à Grenoble parce qu'on a une élue aux données publiques et aux logiciels libres qui agit dans ce sens-là. Il faut citer peut-être la mairie de Fontaine aussi qui s'équipe progressivement mais massivement de logiciels libres et qui promeut vraiment beaucoup l'usage de ces logiciels dans tous ses services.
Oui, donc il y a quand même une évolution des mentalités de la part des pouvoirs publics et du politique sans étiquette particulière, mais il y a une conscience quand même, vous trouvez, qui émerge petit à petit, timide,
peut-être pas assez accompagnée par justement les acteurs du logiciel libre. Et nous, une des volontés qu'on a, c'est vraiment de faire ce pont entre les communautés de développement très techniques, très geeks, j'ai envie de dire, qui sont finalement assez renfermées sur elles-mêmes, même si elles sont ouvertes dans leur écosystème, mais finalement ne débordent pas de l'aspect technologique, et à la fois le grand public, mais aussi les collectivités locales, en les accompagnant dans la compréhension de ce système un peu économique, un peu alternatif, et puis en les accompagnant pragmatiquement au quotidien pour faire la transition, faire du logiciel libre.
Oui, peut-être qu'aussi une phase un peu indispensable serait aussi que l'éducation de nos enfants passe aussi par des cours d'informatique qui soient peut-être aussi conscients, je dirais, des risques et des avantages, parce qu'il n'y a pas que du noir dans cette histoire-là, mais il y a aussi beaucoup d'agréments d'avoir à sa disposition des logiciels qui permettent plein de choses, de faire de l'infographie, de faire du web, de créer de la musique, enfin bref, c'est un champ à explorer largement. On sait bien que le conseil départemental de l'Isère a équipé de nombreux élèves en tablettes numériques notamment. Est-ce que ça, justement, c'est un aspect qui vous intéresse, que vous essayez de travailler, de creuser? Parce que c'est une sorte de, aussi de lutte d'influence, on pourrait dire, que vous, à laquelle vous participez. Vous essayez de promouvoir à travers ces logiciels libres une manière d'envisager une démocratie adaptée au numérique, mais qui soit réelle.
Oui, oui, mais c'est voilà, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de les GAFAM font aussi énormément pour investir le monde de l'éducation, parce qu'ils savent bien que c'est là que se forgent les mentalités des futurs
oui,
citoyens.
Fidéliser les clients dès le plus jeune âge.
Voilà, c'est tout à fait capter les clients oui. Depuis oui. Dès le plus jeune âge. Donc en fait, les grosses sociétés qui font du logiciel propriétaire. Font des gros efforts pour capter le système éducatif. Voilà, ils proposent des systèmes d'exploitation gratuits, du support, des outils. Donc c'est très facile aujourd'hui pour par exemple l'éducation nationale de dire bon, on a tous les services sur ces plateformes-là. Finalement, pourquoi investir dans du développement, dans la mise en place de systèmes qui nous permettent de, finalement, d'avoir des services qui sont parfois bons, mais parfois difficiles à mettre en place, difficiles à comprendre, avec des enjeux politiques, il va falloir se battre pour le faire, alors qu'on nous propose des solutions sur un plateau qui sont toutes prêtes. Mmh. Donc c'est vrai que c'est très très difficile de convaincre. Alors, la stratégie, c'est les petits pas, hein, c'est d'aller vers une école, d'aller vers un collège et d'essayer de mettre en place
tout doucement
ouvert sur une collectivité locale. Voilà, il y a un de nos partenaires là qui est donc producteur d'émotiques qui travaille actuellement avec la métro pour la mise en place dans les écoles d'ordinateurs sous Linux.
Oui, donc ça avance quand même un petit peu, même si voilà. C'est un petit peu le pot de terre contre pot de fer, évidemment, les masses générées, une masse d'argent et de pouvoir, finalement, parce que ces entreprises-là ont le PIB de plusieurs pays réunis, quoi. C'est incroyable, la force de frappe économique dont peut disposer ces grandes sociétés multinationales. C'est difficile dans son petit cas. Mais pour autant, small is beautiful, comme on pourrait dire. On peut partir petit à petit, pas à pas, et c'est bien la démarche qui vous anime au sein de Démotique, c'est de petit à petit renseigner, accompagner, éduquer, faire tomber aussi les peurs et les tabous, parce qu'effectivement, quand on est néophyte, comme moi je peux l'être par exemple, rentrer dans un système d'exploitation dans le cœur vivant d'un ordinateur, bah, ça peut paraître compliqué tout simplement.
Oui, c'est compliqué.
Oui,
enfin, c'est compliqué et on a besoin d'accompagnement pour ça, donc on est là pour ça. Oui, effectivement, ces grandes sociétés sont hégémoniques. Aujourd'hui, ont tout pouvoir et ont une capacité financière qui, effectivement, est à l'échelle de pays. Mais bon, tout n'est pas immuable. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et finalement, c'est intéressant de garder des petites niches, de garder de l'activité de fonder des réseaux aussi, des réseaux de collaboration, pas seulement dans le domaine du numérique, mais aussi avec tout ce qui est développement low-tech, développement...
Alors, les low-tech, en deux mots?
Ouais, les low-tech, c'est justement... toutes les technologies qui vont se passer d'électricité, de numérique en particulier, pour anticiper peut-être demain
un effondrement,
une décroissance, on ne sait pas quelle forme ça peut prendre, mais c'est un sujet sur lequel on débat, on discute aussi. C'est le numérique, c'est aujourd'hui notre quotidien et notre outil, même une extension de l'humain quelque part qui est en train de se profiler, mais est-ce que ça va durer ? Il y a un certain nombre d'idées qui disent que finalement ce système ne peut pas perdurer parce qu'il est écologiquement
irresponsable, oui.
Économiquement c'est une bulle qui risque de s'effondrer comme d'autres bulles se sont effondrées par le passé. C'est pas immuable. Quoi.
Donc il faut anticiper sur le futur dans un espèce d'une espèce de projection comme ça qui serait un petit peu futuriste, mais de dire que si ça n'existe pas, comment on fait quoi ?
Voilà, si demain ces systèmes s'écroulent, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Et effectivement, conserver une main, une gouvernance sur nos outils numériques et ne pas rentrer ou avoir une alternative à une espèce de globalisation où on nous offre des services, mais sans savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils partent, c'est une optique qui nous paraît intéressante dans ce cadre-là. C'est-à-dire faire peut-être de l'auto-hébergement, trouver... Alors l'auto-hébergement, ça consiste à ne pas mettre nos données sur du cloud, ce qu'on appelle du cloud, mais d'avoir son petit cloud à la maison. Son petit nuage de vapeur.
C'est finalement se réapproprier finalement les outils et les développer pour soi-même avec une certaine sécurité et une maîtrise surtout de ceci, hein, c'est bien ça.
Voilà, pour soi-même ou à l'échelle de communautés relativement locales, dans un groupe d'associations ou de réseaux de collaboration à l'échelle d'une ville ou d'une communauté de communes.
Très bien. Merci beaucoup Stéphane Bonhomme d'avoir été l'invité de RKS 97FM dans l'émission L'Invité du jour. Merci. On rappelle que Démotique est en ouverture. C'est 8 grandes rues à Grenoble. C'est un atelier boutique. On peut venir vous voir tout simplement, avoir des renseignements, acheter des produits, bénéficier de vos formations. Vous faites également du site web, de l'audiovisuel, des formations. Donc il y a beaucoup de prestations qui sont à disposition du public et des collectivités. Plus d'infos sur www.demo-tic.org. Et puis, merci à vous de travailler pour que le citoyen se réapproprie finalement ces outils de communication tout simplement et numériques dans une version démocratique, on pourrait dire, et de partage de la communauté du numérique. Merci à vous et puis à très bientôt. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour l'invité du jour sur les belles ondes RKS 97FM. Bonne journée à vous.
12h30, 13h, chaque jour sur RKS, c'est l'invité du jour.